Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour. Les essais critiques de Marcel Proust, rassemblés sous le titre « Contre Sainte-Beuve », ont souligné les dangers d'une méthode qui, pour simplifier, s'efforce d'expliquer l'œuvre par l'homme, par sa biographie. Toutefois, dans le cas de Paul Verlaine, ses biographes ont retenu deux épisodes particulièrement singuliers. Le premier est rapporté ainsi par Verlaine lui-même dans ses confessions. Voici ce qu'il écrit. « À l'époque de ma toute petite enfance à laquelle je reviens après cet écart en avant, les régiments se déplaçaient fréquemment. Celui de mon père dut quitter Metz peu après ma naissance et rejoindre à Montpellier. De ce séjour, j'ai surtout à la mémoire de très somptueuses processions religieuses où des jeunes gens de la ville en robes monacales de diverses couleurs, la plupart du temps blanches, avec des cagoules rabattues sur la tête, percées de trois trous pour la vue et la respiration, se joignaient, qui m'effrayaient passablement. Ces pénitents qu'on les nommait et qu'on les nomme encore, moi, je les appelais les fantômes. » Et une note des œuvres en prose complète dans la Pléiade commente ainsi ce souvenir de l'enfance de Verlaine. À la source des formes toutes blanches, des spectres agités, des fébriles fantômes de nuit du Valpurgis classique, du fantôme laiteux de promenade sentimentale, des fantômes vermeils de soleil couchant, des apparitions lunaires, blafardes et bientôt dissoutes par le tourbillon mortel du songe dans les fêtes galantes, le critique Jean-Paul Weber place le souvenir impossible à exorciser, du blême défilé des pénitents de Montpellier. Toute l'œuvre de Verlaine, écrit-il, comme toute son existence, sont contenues en germe dans le peu d'expériences infantiles que nous venons de décrire, effarement fascinés à la vue des spectres pénitents de Montpellier. Souvenir non attesté toutefois et qui nous paraît assez incertain du jardin de l'écluse et d'une réplique de la Velléda de Mindron. Mindron étant un sculpteur de cette époque. Quant à l'écluse, il s'agit du lieu où vivait la cousine de Verlaine, Elisa, qui mourut, comme on l'a dit la dernière fois, prématurément en couche. Quant au second épisode, il est ainsi mentionné dans la biographie du poète par Pierre Petit-Fils. À cette époque, en juin 1869, Madame Verlaine hébergeait l'ancienne bonne de Louise Grandjean, nommée Victoire, à la recherche d'une place à Paris. Celle-ci assista horrifiée à des scènes de violence que Verlaine a cachées dans ses confessions, mais qu'elle a décrites dans une lettre datée de Batignolles. Un jour, rentré ivre à 5 heures du matin, il décrocha de la panoplie de son père un sabre, un poignard et un grand couteau de chasse et s'écria qu'il allait tuer sa mère. Un autre jour, à coups de canne, il brisa les bocaux d'alcool dans lesquels sa mère conservait les fœtus de ses fausses couches. Il hurlait comme un possédé « Donnez-moi des argents, au diable les bocals !» Il prononçait « bocals ». La malheureuse, en larmes, dut enfouir ses chères reliques dans la cour avec l'aide de Victoire. Ce dernier trait a été retenu dans le portrait romancé que l'écrivain Guy Goffet a composé sous le titre « Verlaine d'ardoise et de pluie », reprise à peine déguisée de la formule de Paul Claudel parlant de Verlaine comme un fils de l'ardoise et de la pluie. Voici ce qu'écrit Goffet. « Quand la charge est trop lourde, que le bas blesse trop profond, l'animal se cabre ou s'affaisse. Verlaine a 25 ans bien sonné quand, une nuit de juillet 1869, ayant bu plus que de coutume, il rentre chez sa mère et, l'ayant renversée sous lui, tente de l'étrangler. Heureusement, Victoire, la servante, s'interpose et fait lâcher prise au furieux. Alors, fou de colère, Verlaine avise l'armoire au secret, l'ouvre toute grande et menace de flanquer par terre, d'un coup de sa canne de noyer, les trois bocals. Ce, comme il dit de sa voix de rogomme ardennais, si on ne lui donne, séance tenante, des argents. Il y a belle lurette que les coups de pied de l'enfant dans le ventre de sa mère ne la font plus sourire. Paul, le fœtus numéro 4, est arrivé à terme. Il a bu tout l'esprit de vin et ne sent plus sa force quand il cogne à tort et à travers sur ceux qu'il aime et voudrait le retenir d'un peu trop près. Au-delà de l'épisode des pénitents ou de celui des bocaux brisés à coups de canne, d'où s'échappent de pauvres fœtus, si l'on est attentif aux termes verléniens, statue dont le plâtre s'écaille, comme la Véléda, la prophétesse celte du sonnet après 3 ans, sylvain de marbre, pure statue au péplos étoilé, spectres agités, fébriles fantômes, c'est un univers éminemment singulier qui saisit le lecteur des fêtes galantes et des romances sans parole. Pour ce qui est des fêtes galantes, Rimbaud écrivait à Georges Isambard le 25 août 1870, soit un an presque jour pour jour, avant sa toute première lettre à Verlaine. Je cite la phrase de Rimbaud. « J'ai les fêtes galantes de Paul Verlaine. C'est fort bizarre, très drôle, mais vraiment c'est adorable. » Bizarre, drôle, adorable, les adjectifs marquent le plaisir naïf d'un lecteur d'à peine 16 ans. Une note de Jacques Borel dans la Pléiade est plus précise. Il paraît acquis que le titre même de l'œuvre vienne directement du livre de Charles Blanc, Les peintres des fêtes galantes, et sans doute trouve-t-on déjà dans l'art au XVIIIe siècle des Goncourt, publié en fascicule chez Dantu à partir de 1859, une même vision d'un watteau nocturne, lunaire, mélancolique, peuplant de figures inquiètes ou fiévreuses, un pays de songes qui débouche plus sur le l'été que sur les îles du plaisir. Cette vision, si Verlaine pourtant l'élit, la fait sienne, s'il tient pour rien le côté chaud, lumineux, heureux de l'œuvre, c'est parce qu'elle répond en lui à une réalité profonde, parce que déjà il était lui-même habité et hanté par ce tournoiement à la fois pressé et fantomatique, parce que déjà, aux confins les plus reculés de la rêverie, il avait vu se lever cette même lune triste, blafarde et solennelle, qu'il s'était lui-même senti l'un de ces spectres qu'un vertige irrésistible agite. Dès les poèmes saturniens, il allait à faire de ces paysages tristes un paysage intérieur. Ici, la Soleil devient quinconce ou boulingrin, l'étang avec ses ondes et ses nénuphars blêmes, jet d'eau ou bassin, le crépuscule clair de lune livide, le côté blafard, effaré, tremblant de l'impressionnisme verlénien s'accentue, ce paysage choisi reste celui de l'âme. Les fêtes galantes ne sont pas composées comme l'étaient les poèmes saturniens. Elles présentent simplement 22 poèmes qui se suivent. Embarquons alors pour cette fascinante citère en lisant le poème intitulé « Citère », cette île grecque de la mer Égée qui abritait un temple dédié à la déesse de l'amour Aphrodite. Pour ce qui est du tableau de Watteau, les historiens d'art disputent encore pour savoir s'il représente le départ de l'île ou le départ vers l'île. Je lis donc le poème intitulé « Citère ». Un pavillon à claire voix abrite doucement nos joies qu'éventent des rosiers amis. L'odeur des roses, faible, grâce au vent léger d'été qui passe, se mêle au parfum qu'elle a mis. Comme ses yeux l'avaient promis, son courage est grand et sa lèvre communique une exquise fièvre. Et l'amour comblant tout, hormis la faim, sorbets et confitures, nous préserve des courbatures. Et je lis maintenant le poème intitulé « Clair de lune ». Votre âme est un paysage choisi que vont charmants masques et bergamasques, jouant du luth et dansant, et quasi tristes sous leur déguisement fantasque. Tout en chantant sur le mode mineur, l'amour vainqueur et la vie opportune, ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur, et leur chanson se mêle au clair de lune, au calme clair de lune triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres. Après Cythère et Clair de lune, voici encore d'autres poèmes tirés des fêtes galantes. D'abord, le poème intitulé « Sur l'herbe ». L'abbé divague. « Et toi, marquis, tu mets de travers ta perruque ? Ce vieux vin de Chypre est exquis, moins, Camargo, que votre nuque. Ma flamme, do mi sol la si. » L'abbé, ta noirceur se dévoile. Que je meure, mesdames, si je ne vous décroche une étoile. Je voudrais être petit chien. Embrassons nos bergères l'une après l'autre. Messieurs, eh bien, do, mi, sol. Eh, bonsoir la lune. Le poème intitulé « À la promenade ». Le ciel si pâle et les arbres si grêles semble sourire à nos costumes clairs qui vont flottant légers avec des airs de nonchalance et des mouvements d'ailes. Et le vent doux ride l'humble bassin et la lueur du soleil qu'atténue l'ombre des bas tilleuls de l'avenue nous parvient, bleue, et mourant à dessein. Trompeurs exquis et coquettes charmantes, cœurs tendres, mais affranchis du serment, nous devisons délicieusement, et les amants lutinent les amantes, de qui la main imperceptible sait, parfois donner un soufflet, qu'on échange contre un baiser sur l'extrême phalange du petit doigt, et comme la chose est immensément excessive et farouche, on est puni par un regard très sec, lequel contraste au demeurant avec la moue assez clémente de la bouche. Puis le poème intitulé « Les coquillages ». Chaque coquillage incrusté dans la grotte où nous nous aimâmes a sa particularité. L'un a la pourpre de nos âmes, dérobé au sang de nos cœurs, quand je brûle et que tu t'enflammes. Cet autre affecte tes langueurs et tes pâleurs, alors que, lasse, tu m'en veux de mes yeux moqueurs. Celui-ci contrefait la grâce de ton oreille, et celui-là ta nuque, rose, courte et grasse. Mais un, entre autres, me troubla. Présent le poème intitulé « En bateau ». L'étoile du berger tremblote dans l'eau plus noire et le pilote cherche un briquet dans sa culotte. C'est l'instant, messieurs, ou jamais, d'être audacieux et je mets mes deux mains partout désormais. Le chevalier Atis qui gratte sa guitare, à Chloris l'ingrate, lance une œillade scélérate. L'abbé confesse bas aiglé et ce vicomte déréglé des chants donnent à son cœur la clé. Cependant, la lune se lève et l'esquif en sa course brève file gaiement sur l'eau qui rêve. Le poème intitulé « En sourdine, calme dans le demi-jour que les branches hautes font, pénétrons bien notre amour de ce silence profond. Fondons nos âmes, nos cœurs et nos sens extasiés parmi les vagues langueurs des pins et des arbousiers. Ferme tes yeux à demi, croise tes bras sur ton sein et de ton cœur endormi chasse à jamais tout dessein. Laissons-nous persuader au souffle berceur et doux qui vient à tes pieds rider les ondes de gazon roux. Et quand, solennel, le soir, des chaînes noires tombera, voix de notre désespoir, le rossignol chantera. Et enfin, le poème, toujours dans les fêtes galantes, colloque sentimental. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, et l'on entend à peine leurs paroles. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux spectres ont évoqué le passé. Te souvient-il de notre extase ancienne ? Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne ? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom ? Toujours vois-tu mon âme en rêve ? Non ? Ah, les beaux jours de bonheur indicible où nous joignions nos bouches ! C'est possible ? Qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir ? L'espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir. Tel, il marchait dans les avoines folles et, la nuit seule, entendit leurs paroles. Enfin, s'il faut ne lire qu'un seul poème du recueil des romances sans paroles, contemporain cette fois de la relation avec Rimbaud, retenons l'Ariette sans titre, mais avec l'épigraphe toute sobre de Rimbaud, « Il pleut doucement sur la ville ». Voici ce poème, donc épigraphe d'abord d'Arthur Rimbaud, comme je l'ai dit. « Il pleut doucement sur la ville. Il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur ? Oh, bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits. Pour un cœur qui s'ennuie, oh, le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi ? Nulle trahison ? Ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine.
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne déchirez pas avec vos deux mains blanches et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux. Tout couvert encore de rosée, que le vent du matin vient glacer à mon front. Soufflez que ma fatigue à vos pieds reposée. Rêve des chers instants. Sur votre jeune sein, laissez rouler ma tête, toute sonore encore de vos derniers baisers. Laissez-la s'apaiser. Je dorme peu.
Puisqu'il me reste un peu de temps, je voudrais lire en écho à la musique chantée par le baryton sur qui je reviendrai, en écho ce poème qui s'intitule « Green » et qui est tiré des romans sans paroles. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. J'arrive tout couvert encore de rosée que le vent du matin vient glacer à mon front. Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposés rêve des chers instants qui la délasseront. Sur votre jeune sein, laissez rouler ma tête, toute sonore encore de vos derniers baisers. Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête et que je dorme un peu, puisque vous reposez. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre tout d'abord de Claude Debussy la suite bergamasque intitulée Clair de lune, interprétée par le pianiste chilien Claudio Arau. Ensuite, vous avez pu entendre le baryton Bruno Laplante qui a chanté deux mélodies de Reinaldo Hahn, qui s'est tant inspiré de Verlaine. La première était intitulée « Le ciel est par-dessus le toit », et c'est une incursion hors des fêtes galantes et de romances sans paroles, puisque c'est un poème tiré de sagesse, alors que Verlaine, on y reviendra, était en prison en Belgique. La deuxième mélodie, toujours chantée par le baryton Bruno Laplante, était intitulée « Offrande », mais c'est en fait celle que j'ai lue et qui était tirée de romans sans paroles et qui s'intitulait en réalité « Green ». Et enfin, la dernière musique entendue était interprétée par les deux sœurs Maria et Natalia Milstein, au violon et au piano, et il s'agissait encore d'une mélodie composée par Reinaldo Hahn, intitulée « Acloris », originellement chantée sur des textes du poète Théophile de Viau. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.